ne freine pas.
Radio G 101.5 FM.
Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Aujourd'hui, j'anime l'émission avec Erika. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Très bien. Bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous avons la grande chance d'accueillir Aurélia, Anne Gaïdic et Olivier qui sont membres de l'AAVAS, l'association d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Et dans le studio, on reçoit également la belle équipe des journalistes de l'antenne jeune d'Amnesty Angers. Elles vont nous présenter leur chronique mensuelle tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, Erika, tu vas faire ton éditorial.
Je voulais commencer cette émission en revenant sur les caméras piétons des forces de l'ordre qui ont vocation à apporter de la transparence, éclairer des faits et donc renforcer la confiance. L'enquête journalistique parue cette semaine sur les manifestations du 25 mars 2023 contre les méga-bassines à Sainte-Soline nous laisse à penser que pour l'instant, la réalité serait bien différente.
Tu fais référence à ce que Mediapart et Libération ont découvert dans les images des gendarmes.
Oui, les journalistes ont pu visionner les images tournées par les forces de l'ordre lors de cette manifestation. Et ce qu'on y voit et entend interroge profondément. Des consignes très discutables, un ton agressif et insultant, des pratiques qui relèvent plus de l'affrontement que de la protection, et surtout, selon l'enquête, aucun gendarme n'aurait été interrogé spécifiquement sur le contenu de ces images. Autrement dit, les caméras ont enregistré, mais personne n'aurait voulu en tirer les conséquences.
Tu veux dire que filmer ne résout rien ?
En partie seulement. La caméra filme, mais la caméra n'empêche rien, pas sans un système qui utilise réellement ce qu'elle montre.
Et que dit Amnesty à ce sujet ?
Amnesty ne dit pas que les caméras piétons sont inutiles. Elles peuvent être un outil précieux pour documenter, pour comprendre, pour garantir des droits. Mais Amnesty rappelle que l'outil ne sert à rien sans des garanties solides autour. Ce n'est pas la caméra qui protège, c'est le système qui encadre son usage. Notre position tient en trois points, très simples. Un accès réel aux images pour les victimes, des enquêtes réellement indépendantes, un cadre transparent et contrôlé. Ce n'est pas un gadget et aujourd'hui ces conditions ne sont pas pleinement réunies.
Et tout ça, ça se produit dans un climat où la défiance est de plus en plus forte.
Exactement. On entend des prises de parole très virulentes, parfois outrancières, contre les forces de l'ordre. Qu'on partage ces propos ou non, ils disent quelque chose. Ils révèlent un fossé qui se creuse. Et les caméras piétons ne résoudront rien à ce fossé si les images ne servent pas de base solide pour établir la vérité ou pour reconnaître les fautes quand il y en a. Elles ne rassurent pas, elles n'apaisent pas, elles n'expliquent rien. C'est bien pour cela qu'on peut évidemment se féliciter de la nouvelle obligation faite aux agents du tribunal de Bobigny. En effet, les policiers affectés au dépôt devront désormais allumer les caméras piétons dont ils sont équipés à chacune de leurs interventions en cellule. Cette annonce fait suite à l'incarcération de deux agents accusés d'y avoir violé une jeune femme.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces caméras piétons ?
On les garde, bien sûr, mais on les replace là où elles doivent être. Non pas comme un remède miracle, mais comme un outil parmi d'autres dans un système qui protège réellement.
Qui protège quoi, finalement ?
Le respect des droits humains, tout simplement. Ainsi, rappelons que manifester en toute sécurité est un droit. Le droit d'exprimer une opinion sans craindre la violence ou la répression. Le droit d'être entendu et pas seulement surveillé. Le droit de participer à la vie démocratique sans risquer d'y laisser sa santé ou sa vie. Amnesty est aussi malheureusement trop souvent dans l'obligation de rappeler que même en détention, tous les droits humains restent valables.
Et au-delà des caméras piétons, qu'est-ce que tout cela dit de notre rapport aux droits humains ?
Ça dit surtout que nous devons rester vigilants. Parce que derrière la question technique des caméras piétons, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. La manière dont un État, et donc une société, traite celles et ceux qui s'expriment, qui contestent, qui se mobilisent. Ce qui ferait la différence, c'est de remettre les droits fondamentaux au centre. Pas comme un discours, mais comme une pratique quotidienne. Pas seulement dans les textes, mais dans la réalité des contrôles, des manifestations, des interpellations, des détentions. Amnesty le rappelle, la sécurité et les droits humains ne s'opposent jamais. On n'a pas à choisir entre les deux. Une force publique qui respecte les droits est une force publique plus forte, plus légitime, plus fiable. Et c'est ça, au fond, qui devrait guider nos décisions. Que chaque outil, caméra, formation, protocole, enquête, serve un objectif simple, faire en sorte que personne, nulle part, ne perde ses droits lorsqu'il exerce une liberté. traverse une rue ou se retrouve sous la responsabilité de l'État. La technologie peut aider, mais ce qui protège vraiment, ce sont les garanties, les contrôles et la volonté politique de ne jamais considérer ces droits comme optionnels. C'est là que tout se joue, dans cette exigence-là, et dans notre capacité à ne pas la laisser s'éroder.
Merci Erika. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Et donc, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Anne Gaédic, Aurélia et Olivier de la Havas. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Merci à vous.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors sur votre association ?
Donc, la Havas, c'est une association d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Nous recevons des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Nous recevons également des proches de personnes ayant subi des violences sexuelles à partir de 16 ans.
Vous avez créé cette association il y a combien de temps ?
Alors, cette association aura 30 ans en 2026. C'est un événement fort qui va arriver pour l'association puisqu'on va préparer les 30 ans de l'association l'année prochaine. Et donc, elle a été créée à l'initiative de travailleuses sociales qui intervenaient dans des foyers pour jeunes filles et qui se sont rendues compte à travers la parole qu'elles recueillaient de ces jeunes filles qu'elles avaient été victimes de violences sexuelles, que leur mère avait été elle-même victime, parfois leur grand-mère, etc.
Et justement, la situation des violences sexistes et sexuelles sur Angers, les alentours ou le Maine-et-Loire, c'est comment aujourd'hui ?
Comme je le disais au départ, il y a 30 ans, ces travailleurs sociaux ont créé ça. Et donc effectivement, il n'y avait pas de structure qui existait, d'où la création de la Havas. Au départ, la Havas était une permanence par mois en soirée pour entendre la parole des victimes. Aujourd'hui, les choses ont quand même un peu changé. La Havas est bien implantée sur le territoire angevin et même du 49 en général. Et puis, on travaille en partenariat avec d'autres associations qui s'occupent des victimes, entre autres de violences sexuelles, dont le CIDFF, le planning familial, Solidarité Femmes, etc.
Vous fonctionnez comment ? Il y a des professionnels, des bénévoles ?
Oui, on est deux professionnels actuellement. Mon collègue Rémi Jonquière qui est à mi-temps et moi, donc je suis Anne Gaédic Le Gallio. Je suis donc psychologue comme Rémi Jonquière et je suis à 80%. Et on intervient avec des bénévoles, de nombreux et nombreuses bénévoles qui sont tous et toutes issus du médico-social. Donc parmi les bénévoles, il y a des psychologues, des médecins, une sage-femme, une infirmière, des assistantes sociales, des éducatrices spécialisées. Et on reçoit toute personne en binôme de professionnels pour des entretiens de soutien psychologique qui peuvent durer dans le temps. Voilà, ça appartient aux personnes de s'engager comme elles le souhaitent dans le parcours de soins qu'on peut leur proposer.
Donc c'est un soutien psychologique, pas juridique. C'est-à-dire vous n'accompagnez pas si la personne veut porter plainte ou veut engager, je sais pas, des poursuites envers la personne qui leur a fait subir. D'accord.
Non. Nous, on fait un rappel de la loi. On vient dire la loi, on vient nommer ce qu'elles ont subi. En revanche, il appartient à chacun et chacune de se positionner par rapport à la justice. Et donc, si les personnes souhaitent s'engager dans une démarche judiciaire, on les informe et on les oriente. Mais on les informe, c'est une information minimale par rapport à leurs droits, puisque nous n'avons pas de juriste dans l'association. En revanche, on les redirige vers les associations angevines ou choletaises, plutôt angevines, parce que ça fonctionne avec des permanences, qui font de l'information aux droits.
D'accord. Et toi, Aurélia, tu es bénévole ?
Je suis psychologue bénévole depuis 2 ans à peu près. Je souhaitais m'engager par rapport à ce type de prise en charge parce que je trouvais qu'il y avait peu de choses qui étaient faites pour les victimes d'agressions sexuelles et donc ça a du sens pour moi.
Et pour toi, Olivier ?
Alors moi, je suis pas bénévole. Je suis en stage cette année en fin de formation de psychologue. Donc là, il me reste encore 6-7 mois avant de commencer à pouvoir avoir le titre et pouvoir travailler. Donc là, je suis pour un stage de 500 heures. Donc là, je vais commencer les accompagnements dans les semaines qui viennent.
Donc vous êtes une association, vous avez forcément besoin de financement, ça se passe comment du côté de chez vous ?
Nous faisons des demandes de subventions chaque année auprès de la ville d'Angers, la ville de Cholet, l'agglomération de Cholet, la DFE, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, le ministère de la Justice, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, le département bien sûr, l'Ordre des avocats et voilà, j'espère que je n'oublie personne, en tout cas je remercie tous ces financeurs. Même si ça reste quand même relativement précaire, puisque c'est des demandes de subventions que l'on doit renouveler chaque année.
Oui, de ce fait, vous faites appel aux dons ?
Oui, certaines personnes peuvent effectivement nous donner la somme. Soit des personnes que l'on accueille et qui, pour nous remercier, ont besoin de nous donner de l'argent. Soit, c'est quand même beaucoup ça, beaucoup de personnes qui ont été accueillies et qui à un moment ont voulu faire un geste vers l'association.
Pour parler de ces personnes, tu as énoncé parmi tous les donateurs une association en lien avec les femmes. Même si ça reste évidemment complètement anonyme, il y a beaucoup de femmes par rapport au nombre d'hommes qui viennent vous voir.
Oui, on reçoit une majorité de femmes. Ouais.
On est au mois de novembre, hein, la journée du 25, la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. C'est bientôt, d'ailleurs, c'est le 22 pour Angers, la grande manifestation. Ça doit résonner particulièrement, je suppose, dans votre association.
Alors oui, même si l'association n'est pas militante, contrairement à d'autres associations sur Angers, on n'est pas une association de militantisme, on ne milite pas. Mais voilà, on est quand même très sensibilisé. On est peut-être plus considéré comme un lieu de soins, en fait, pour les partenaires, pour le réseau, que comme un lieu de militantisme.
Il y a aussi des enfants, hélas, qui sont victimes de ces agressions. Ces enfants ne peuvent pas venir tout seuls, j'imagine.
Non, alors nous, on ne reçoit pas d'enfants. Enfin, on reçoit les mineurs à partir de 16 ans. En deçà, on estime que peut-être un accompagnement plus généraliste et moins ciblé sur les violences sexuelles est plus pertinent. Donc on ne reçoit pas d'enfants. On reçoit des jeunes ados. Enfin, des jeunes ados, non, des ados déjà.
Et des femmes, donc. Et j'ai une pensée particulière pour ces femmes, on peut parler de double peine, qui peuvent se trouver à la rue, ou bien de femmes migrantes. Je ne sais pas si pour elles c'est facile ou pas de venir vous trouver.
Je ne suis pas sûre que ça soit facile. Heureusement, ces personnes sont souvent en lien avec des travailleurs ou travailleuses sociales d'autres institutions qui les redirigent vers nous. Voilà, à un moment, on avait un partenariat avec l'APTIRA pour de la traduction. Malheureusement, l'APTIRA n'existe plus aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a été moins confrontés ces derniers temps à des personnes d'origine étrangère qui ne parlaient pas français. Mais sinon, effectivement, on reçoit aussi des personnes en situation de migration qui ont vécu des violences sexuelles, soit au pays qu'elles ont fui, soit en France. Et donc voilà, moi je me souviens avoir fait avec mon collègue Rémi des entretiens en anglais, alors que je n'ai pas une maîtrise excellente de l'anglais, mais on est amené à recevoir des personnes effectivement issues de l'immigration.
Donc ce sont des accompagnements personnalisés que vous faites ?
Tout à fait.
Des entretiens ?
Des entretiens.
Il n'y a pas d'atelier, enfin je ne sais pas, où plusieurs femmes pourraient discuter entre elles ?
Alors ça tombe très bien que vous nous posiez la question. Nous allons ouvrir un premier groupe de parole à destination des femmes victimes de violences sexuelles à partir du mois de janvier, pour 8 séances d'une heure et demie entre janvier et juillet 2026. Voilà, ça a été un grand chantier de la HAVAS. On a été formés, on est 12 ou 13 de l'équipe à avoir été formés par un organisme nantais, Forcifa, de systémie au groupe de parole. Et donc on va ouvrir ce premier groupe là en janvier.
Alors 2026, c'est l'anniversaire. Donc est-ce qu'il y a des actions à venir, une fête, c'est peut-être un grand mot, mais des choses particulières ?
C'est encore en élaboration. Je peux rien dire pour l'instant.
Ah, c'est le secret.
Justement, alors il y a des choses que vous avez faites dont vous avez envie de nous parler ?
Alors peut-être ce dont j'ai pas parlé, c'est que on est amené aussi à la demande de structures, d'organisations, on est amené à intervenir, non pas en tant que formateur ni formatrice, mais plutôt pour sensibiliser les gens à la question des violences sexuelles. Donc on est intervenu près de services de mairie ou dans des IME, on intervient aussi à l'école des travailleurs sociaux à Angers, enfin voilà. Donc on peut proposer aussi ce genre d'intervention.
Dans des lycées aussi ?
Non, ça s'est pas encore fait. Enfin, on a pu intervenir dans des lycées, mais sous d'autres formes. Par exemple, avec une collègue, on intervenait au lycée, dans un lycée à Cholet, auprès d'une lycéenne. Voilà, mais c'était pour des entretiens, en fait.
Pas pour faire de la prévention.
Pas pour faire de la prévention auprès des lycéens et lycéennes. Non. On a pu avoir ce genre de demande, mais finalement qu'on a redirigé vers une autre association, Colosse au pied d'argile, qui est spécialisée dans la formation auprès des jeunes.
D'accord.
Sur ces questions de violence sexuelle.
Donc il y a vraiment un lien fort entre les associations qui travaillent autour de cette terrible thématique, en fait.
Moi, je trouve que oui.
Ouais.
D'accord. Et comment fait-on pour vous contacter, justement ?
Vous pouvez nous appeler au 02 41 36 0207 et nous laisser un message si on ne répond pas. On s'engage toujours à répondre. Notre adresse mail, c'est contact@ahavas.fr.
Vous avez un site internet aussi ?
On a un site internet, ahavas.fr.
Merci beaucoup. On se retrouve après une pause musicale.
Farafina Musso, you're stronger than you know. If the earth is a woman, if the sea is a woman, Every moon is a woman. I know God is a woman. Every man needs a woman by his side, a superwoman. If we all love a woman, then shall we respect our woman's mothers, sisters, mothers, warriors. Farafina Musso, Farafina Musso, Farafina Musso. You're stronger than you know.
Nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos filles, vos cœurs frondeurs, âmes indociles, lumière, lueur, éclair de nuit, vos champs de fleurs couvrent nos ruines.
Venez d'écouter Farafina Musso, un chant en langue anglaise et française chanté par Loubiana accompagné de Gaël Faye, une très belle ode aux femmes d'Afrique. Et vous êtes de retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est bientôt l'heure des actualités. Mais tout d'abord, c'est la chronique de notre chère antenne jeune qui sera proposée ce mois-ci en direct. Mais oui, bonjour à vous deux, Léna et Eulali, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Bah, ma foi, fort bien. Vous nous parlez un tout petit peu de vous alors, comment s'est passée la rentrée à l'antenne jeune?
Très bien, on a reçu pas mal de personnes, on est passé de une quinzaine de personnes au double.
Allez!
Ouais, on a pas mal gagné et en plus là on est en train de commencer à faire nos premiers projets, donc on a hâte que ça se passe et ça se concrétise.
Donc vous êtes de la commission communication, journalisme, comment ça s'appelle?
Journalisme.
Oui. Journalisme, ça fait plus sérieux, bravo. Très bien.
Je suis dans le pôle du coup journalisme et événementiel, Elena. Alors moi je fais partie du coup du pôle journalisme et également du pôle événementiel cette année.
D'accord, et c'est, pardon, c'est 30 personnes, c'est qui? Belle-Bay, l'université Saint-Serge,
alors, en fait,
Luco
on, c'est toute la ville d'Angers. Enfin, tous les étudiants qui peuvent venir entre 16 et 25
oui.
ans.
Super.
Donc, on a à la fois des personnes dans les universités, mais aussi des lycéens, des terminales. Moi aussi, j'étais un peu choquée, je ne savais pas qu'on les intéressait, mais c'est super bien. Et voilà, donc moi, je suis référente du pôle journalisme. Donc, voilà, et l'association, elle est divisée en plusieurs secteurs. On a aussi le pôle communication, on a le pôle partenariat, et également le pôle EDH, éducation des droits de l'homme, qui est un nouveau pôle qu'on vient d'ouvrir pour sensibiliser les jeunes, notamment dans les lycées et autres infrastructures, sur les droits humains.
Formidable. Et alors ce mois-ci, votre chronique, elle est sur quelle thématique?
Elle va porter du coup sur Shein, une entreprise de fast fashion à l'échelle internationale.
Eh ben, on vous écoute.
Très bien. Alors, nous sommes le pôle journalisme de l'antenne Jeanne Annecy d'Angers. Et notre mission là, aujourd'hui, c'est de décrypter l'actualité à travers le prisme des droits humains.
Aujourd'hui, on va parler d'un divorce qui fait plus de bruit que celui de Brad et d'Angelina, la rupture entre les Galeries Lafayette et Shein.
Alors attention Elalie, ce n'est pas directement entre les Galeries Lafayette et Shein. C'est le groupe Galeries Lafayette qui a décidé de mettre fin à son contrat d'affiliation avec 7 magasins en région qui, eux, étaient gérés par un autre groupe. Et cette décision, elle fait suite à la polémique Shein.
Ah, la fameuse polémique. Parce que Shein, c'est le nouveau chouchou de la fast fashion. Ou plutôt de l'ultra fast fashion. Des robes à 10 euros, des t-shirts à 5, des nouveautés toutes les 5 minutes. C'est le paradis du shopping compulsif, non ?
C'est surtout le paradis du doute éthique. Et c'est là qu'Amnesty International entre en jeu. Pour comprendre, il faut décortiquer ce modèle d'ultra fast fashion.
Vas-y, éclaire-nous. Qu'est-ce qui se cache derrière ces prix imbattables ?
C'est une course à la vitesse et au volume. Shein met en ligne des milliers de nouveaux produits par jour. Pour tenir ce rythme, la pression sur les sous-traitants est maximale. C'est ce qui amène, selon les enquêtes d'ONG comme Action Aid, à des salaires de misère, des journées de travail de 12 à 18 heures et des conditions de sécurité déplorables. C'est ça, le coût caché de la robe à 10 euros.
Donc, en gros, quand on achète une robe Shein, on a l'impression de faire une affaire, mais en réalité, c'est quelqu'un d'autre qui paye le prix fort. C'est ça les fameux droits humains dont on parlait ?
C'est le cœur du problème, Eulalie. Les droits humains bafoués. Et c'est là que l'affaire Galeries Lafayette devient intéressante. Le groupe a mis fin à son partenariat avec les magasins qui avaient fait entrer Shein, en invoquant une divergence stratégique. Mais c'est surtout un signal fort sur le devoir de vigilance.
Le devoir de vigilance ? C'est quoi ce truc ?
C'est une obligation légale, notamment en France, qui impose aux grandes entreprises de prendre des mesures pour identifier et prévenir les atteintes graves aux droits humains et à l'environnement commises par leurs filiales, leurs sous-traitants ou leurs fournisseurs.
Ah, je vois. Donc, les Galeries Lafayette ne peuvent pas juste dire « ce n'est pas nous, c'est notre sous-traitant qui a fait entrer Shein ». Ils sont responsables directement de toute la chaîne.
Exactement. Amnesty International insiste sur cette nécessité d'une vigilance absolue. Le fait que les Galeries Lafayette aient pris leur distance, même indirectement, montre que la pression des consommateurs et des ONG est efficace pour forcer ces géants à choisir leur camp entre l'image de marque et l'éthique.
Un signal fort, mais aussi un coup de com' bien senti. Parce que Shein, c'est l'anti-luxe par excellence. Les Galeries Lafayette, c'est plutôt le temple du chic parisien. C'est un peu comme si le Ritz se mettait à vendre des kebabs.
La comparaison est osée, mais l'idée est là. Pour une marque qui se veut haut de gamme et responsable, s'associer même de loin à une enseigne aussi controversée que Shein, c'est un risque d'image énorme. C'est la preuve que l'éthique est devenue un enjeu de réputation majeur.
Donc, le message à retenir, c'est que derrière le prix mini, il y a souvent un coût humain maxi. Et que, même si on ne voit pas les usines, le devoir de vigilance, lui, oblige les entreprises à les regarder.
C'est ça, et c'est pour ça qu'Amnesty International appelle à ce que cette loi sur le devoir de vigilance soit appliquée de manière encore plus stricte et étendue, pour que la mode ne soit plus synonyme d'exploitation.
En clair, la prochaine fois que vous voyez un t-shirt à 5 euros, demandez-vous combien de droits humains ont été sacrifiés pour arriver à ce prix. Et rappelez-vous que les Galeries Lafayette ont préféré s'en éloigner. Merci Léna pour cet éclairage complet.
Merci Eulalie. Et merci à vous deux. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. C'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
En Tunisie, le durcissement de la répression atteint des niveaux critiques. Au cours des 4 derniers mois seulement, au moins 14 ONG tunisiennes et internationales ont reçu des ordonnances judiciaires leur enjoignant de suspendre leurs activités pendant 30 jours. C'est notamment le cas de plusieurs organisations de premier plan comme l'Association tunisienne des femmes démocrates ou bien la section tunisienne de l'Organisation mondiale contre la torture. Le prétexte, la lutte contre les financements étrangers suspects et la protection des intérêts nationaux. Ce harcèlement judiciaire et administratif, tous azimuts, a instauré un climat de peur généralisée, restreignant les droits à la liberté d'association et d'expression et étouffant l'espace civique en Tunisie.
Le 12 novembre à Paris s'est ouvert le procès de Roger Lumbala Chitenga, qui est le chef d'un groupe armé congolais accusé de complicité de crimes contre l'humanité, notamment d'homicides, d'actes de torture et de viols commis dans la province du Nord Kivu en 2002 et 2003. Et oui, ça fait plus de 20 ans. Eh bien, les victimes de ces crimes attendent depuis plus de 2 décennies que justice soit rendue. Et ce procès historique est l'occasion d'adresser un message clair à ceux et celles qui sont soupçonnés d'être pénalement responsables d'atrocités de masse commises en République démocratique du Congo et qui se trompe s'il pense pouvoir se cacher dans d'autres pays pour échapper à tout examen attentif.
Le militant des droits de l'homme égypto-britannique Alaa Abdel Fattah vient d'être interdit de quitter le Caire. Cette figure des printemps arabes devait se rendre à Londres pour la remise du prix des droits de l'homme Magnitsky. Mais il s'est vu refuser l'embarquement par les services de contrôle des passeports égyptiens. Alaa Abdel Fattah s'était fait connaître lors de la révolution égyptienne de 2011. Son militantisme pacifique et critique à l'égard du gouvernement lui avait valu d'être pris pour cible par les autorités égyptiennes à plusieurs reprises. Après sa dernière arrestation en septembre 2019 dans le cadre d'une répression généralisée des manifestations, il avait été condamné et emprisonné pour diffusion de fausses informations, puis finalement gracié il y a un mois.
Mais il n'a pas le droit de quitter le territoire. Allez, un nouveau rapport d'Amnesty qui décrit les préjudices causés par l'industrie des énergies fossiles. Préjudices causés au climat, aux personnes et aux écosystèmes à travers le monde. Amnesty s'est associé au Better Planet Laboratory, excusez de l'accent, de l'Université du Colorado afin de réaliser une étude cartographique inédite visant à estimer l'ampleur potentielle des dommages causés. Au moins 2 milliards de personnes vivent à moins de 5 km. De plus de 18 000 sites d'infrastructures exploitant des combustibles fossiles répartis dans 170 pays. Parmi eux, on estime qu'il y a plus de 520 millions d'enfants. Et il a été démontré que le fait de vivre à proximité d'infrastructures liées au charbon, au pétrole ou au gaz augmente évidemment les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, de troubles de la reproduction et d'autres effets néfastes sur la santé. Si vous voulez retrouver ce rapport édifiant, allez sur le site d'amnesty.org.
Chaque jour dans le monde entier, des personnes voient leurs droits fondamentaux menacés ou bafoués. Autour du 10 décembre, Journée internationale des droits humains, des millions de personnes se mobilisent en signant massivement des pétitions proposées par Amnesty International pour changer l'histoire de personnes dont les droits sont en danger. Nos trois objectifs, interpeller massivement les autorités responsables des exactions commises, montrer la solidarité internationale et médiatiser ces situations. Cette année, 9 mobilisations vous sont proposées. Les pétitions sont en ligne sur le site d'Amnesty. Vous pourrez également venir directement les signer à la médiathèque Nelson Mandela entre le 2 et le 6 décembre. Val, tu peux nous en dire plus ?
Bien sûr, ces 9 situations à défendre cette année. Effectivement, il y en a 3 d'entre elles qui concernent le droit à la liberté d'expression. Il y a Sonia Damani, une avocate tunisienne, Sai Zao Taike, un journaliste du Myanmar, et Ayaya Sharif Aminu, un chanteur nigérien. Tous les trois doivent être libérés de prison et les charges contre eux annulées. Et puis il y a d'autres cas qui sont en lien avec la défense de l'environnement. Les membres du groupe militant cambodgien Mother Nature Cambodia qui ont été emprisonnés. Il y a aussi les militantes amazoniennes. Alors là, c'est de l'espagnol, Guerreras por la Amazonia, dont la protection a été refusée alors que des attentats menacent leur vie. À Madagascar, Damisoa et les autres personnes déplacées en raison de la sécheresse se retrouvent abandonnées sans aide humanitaire adéquate. Et puis il y a aussi Alinor Guttorn, qui est la porte-parole d'une communauté autochtone norvégienne. Et puis enfin Juan Lopez, un militant assassiné pour avoir défendu des sites naturels au Honduras. Le dernier cas se situe en France. Il s'agit du collectif Basket pour toutes, un collectif engagé dans la lutte contre la discrimination dans le sport. On peut faire du basket avec un foulard. Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Le 22 novembre, rendez-vous à la manif féministe contre les violences sexuelles et sexistes. À 16h, départ du tribunal et arrivée à 17h30, place de la République pour les chants et le fémage avec bougie.
Tu sais ce que c'est un fémage ?
Oui, je sais ce que c'est un hommage, mais pour les femmes.
Merci. Dans le cadre des journées nationales prison, le groupe Angevin de concertation prison propose le mardi 25 novembre une soirée théâtrale et un débat à la maison de quartier de Montplaisir. Ça sera à 20h, pensez à réserver.
Le 8 décembre, la commission justice climatique de notre groupe organise un ciné-débat au Carnet autour du film Yinta. Ce documentaire retrace plus de 10 ans de combat de la nation Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, qui se bat contre la construction d'un gazoduc qui traverse son territoire d'est en ouest.
Et puis n'oubliez pas, du 2 au 6 décembre, on vient d'en parler, venez signer nos pétitions à la médiathèque Nelson Mandela. Il est déjà presque 19h30, c'est le temps de conclure cette émission et de remercier Anne-Gaëdic, Aurélia, Olivier, Eulalie et Léna pour leur venue. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. Et c'est quoi déjà votre lien Facebook et Insta?
Alors, on n'a pas Facebook, mais on a Insta et c'est
Amnesty Angers Agit. Tout en minuscule, tout collé. Voilà, donc vous pouvez suivre notre compte Insta si vous voulez connaître les actualités.